Bonjour à chacun. Ce matin, pour notre série en cours sur les questions posées par Jésus dans les évangiles, je vous invite à retourner dans l'évangile selon Matthieu. Et notre question du jour se trouve dans une des sections du Sermon sur la montagne, la section qui aborde le sujet de l'inquiétude. Alors voilà notre question. Alors si quelqu'un se demande ce qu'il pourrait offrir à Noël à l'Église, je suggère qu'on avance sur la question de la télécommande parce que c'est à chaque fois compliqué. Voilà, notre question, donc, tout d'abord dans la traduction de la Nouvelle Bible Second, et puis dans celle de la Bible du Semeur. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger sa vie, ne serait-ce que de quelques instants? Je vous invite à lire avec moi le texte dans lequel se trouve cette question. Nous sommes donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Je lis à partir du verset 25 et je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? » ou bien « Qu'allons-nous boire ? » ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherche sans relâche, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Notre question concerne donc le sujet de l'inquiétude, un sujet qui nous concerne tous. En effet, qui peut dire qu'il ne s'est jamais inquiété, ou alors qu'il ne s'inquiète jamais, ou encore qu'il ne s'inquiétera jamais? En fait, les sujets d'inquiétude sont toujours nombreux, que ce soit la crise ou pas d'ailleurs, que l'inflation soit forte ou pas, que la conjoncture soit favorable ou pas. Il faut toujours parvenir à faire bouillir la marmite, à boucler les fins de mois, à payer les factures, les études des enfants, le crédit de la maison, la voiture, à remplir le caddie ou tout simplement le réservoir d'essence. Il faut toujours faire face aux à-coups de santé, les nôtres et ceux de nos proches, aux imprévus de toutes sortes, à toutes les vicissitudes de la vie. Oui, les sujets d'inquiétude ne manquent pas et ne manqueront jamais. Mais alors, que veut dire Jésus quand il nous dit de ne pas nous inquiéter? Est-ce que c'est seulement possible? Soulignons tout d'abord que le vocabulaire peut nous piéger. En effet, dans le langage courant, nous disons facilement, par exemple, que nous nous inquiétons pour la santé de quelqu'un. Et quand nous disons cela, nous disons simplement que nous pensons à cette personne et que nous nous sentons concernés par son bien-être. Clairement, ce n'est pas de cela dont Jésus parle dans notre texte. Cette inquiétude-là est une forme de sollicitude, de bienveillance, qui va nous amener très souvent à rechercher et à agir pour le bien de l'autre. L'inquiétude dont parle Jésus est d'un autre acabit. C'est ce ressenti face à une situation donnée qui nous amène à la crainte, qui nous amène ensuite peut-être même jusqu'à l'angoisse, qui nous envahit insidieusement, totalement, quand nous essayons de tout maîtriser sans y parvenir, qui nous saisit parfois aux tripes devant les incertitudes de la vie. C'est ce ressenti face à une situation donnée qui peut nous rendre malades, qui peut même parfois nous empêcher de dormir, qui nous donne des palpitations, et j'en passe. Voilà l'inquiétude dont parle Jésus. Voilà l'inquiétude qui l'interdit, je le dis bien comme ça, qui l'interdit à ses disciples. Pourquoi ? Parce que cette inquiétude-là entre directement en conflit avec la confiance à laquelle Jésus nous appelle. Parce que cette inquiétude-là, très vite, nous domine pour nous amener sur le terrain glissant du doute et peut-être même de l'incrédulité. Jésus ordonne donc à ses disciples, ordonne, c'est un impératif, on ne peut pas le dire autrement. Jésus ordonne à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Alors est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas être prudent, prévoyant face à l'avenir? Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas travailler, puisque Dieu pourvoira, qu'il ne faut pas tout mettre en œuvre pour prendre soin des siens? Est-ce que ne pas s'inquiéter dans la bouche de Jésus serait une invitation à la paresse? Est-ce que Jésus invite ses disciples à se croiser les bras et à attendre simplement que notre Père céleste prenne soin de nous? Nous y reviendrons, mais soyons clairs dès le départ. Ce que Jésus interdit à ses disciples, c'est l'inquiétude, pas le travail. D'ailleurs, l'Écriture condamne fermement la paresse et loue, par exemple, la prévoyance et la sagesse, le travail de la fourmi. D'ailleurs, vous noterez dans notre texte que même les oiseaux que Dieu nourrit, et que Jésus prend en exemple dans notre passage, ces oiseaux doivent quand même chercher leur nourriture. En fait, ne pas s'inquiéter pour la nourriture ou le vêtement dont il est question ici n'exclut pas de faire sa part, de faire des efforts, de planifier, d'anticiper. Il faut faire toutes ces choses-là, mais il faut les faire dans une attitude de confiance à Dieu qui pourvoira. Et non pas dans une attitude inquiète. Une attitude de confiance à Dieu qui va générer la paix dans mon cœur, et non pas l'inquiétude. J'ouvre une petite parenthèse ici pour faire une dernière remarque dans cette introduction. Pour dire que nous ne sommes pas tous égaux face à l'inquiétude. pour dire que tout ne se résume pas, quand nous parlons de l'inquiétude, au choix que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des caractères, il y a des personnalités, il y a des tempéraments qui sont plus inquiets que d'autres. Et pour certains, l'inquiétude, c'est un combat de chaque jour et de tous les instants. Alors que pour d'autres, elle se cantonnera peut-être aux situations hors normes de notre vie qui, de temps en temps, viennent, s'invitent sur notre chemin. Et puis, il y a bien évidemment tout ce qui est de l'ordre du médical dans lequel je n'entre pas ici et qui me semble de toute façon au-delà du propos de Jésus. Jésus qui adresse dans notre texte ce qui dépend de notre volonté et non pas le reste, me semble-t-il. Et je referme cette parenthèse. Alors, avant de voir les différentes raisons du texte qui soulignent le caractère mauvais de l'inquiétude et donc les raisons de ne pas nous inquiéter, de ne pas s'inquiéter, j'aimerais rapidement souligner quelques éléments pour mieux comprendre notre texte. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est le lien qui existe entre les versets que nous avons lus de notre texte et le verset qui précède que nous n'avons pas encore lu. Vous l'avez sans doute remarqué, notre texte commence par « c'est pourquoi ». « C'est pourquoi » qui indique que ce que Jésus dit, va dire sur le sujet de l'inquiétude, est une conséquence directe de ce qu'il vient de dire dans le verset ou les versets qui précèdent. Et que vient-il de dire ? Alors comme vous n'avez pas vos Bibles peut-être avec vous, vous ne savez pas encore, à moins que ceux qui regardent, qui l'ont ou qui regardent sur leur téléphone, il vient de dire la chose suivante au verset 24. Voilà. Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas servir deux maîtres, dit Jésus. On ne peut pas être esclave ou serviteur de deux maîtres à la fois. C'est la raison pour laquelle, quand je choisis Dieu pour maître, et non pas Mammon ou alors autre chose, alors ce choix, dit Jésus, doit se traduire au niveau de mon comportement. Ce choix de prendre Dieu pour maître doit se traduire dans mon quotidien, jour après jour, et tout particulièrement, il doit se traduire par le rejet de l'inquiétude. Et c'est ainsi que Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Alors bien sûr, j'en suis tout à fait conscient, c'est beaucoup plus vite dit que fait. Et bien évidemment, ça ne fonctionne pas si je ne cultive pas au quotidien une attitude de confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais parce que Dieu est mon maître, je fais le choix. Je fais le choix de ne pas m'inquiéter. Je fais le choix de la confiance en Dieu. Et je le fais parce que je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et que d'une certaine manière, faire le choix de l'inquiétude ou me laisser aller à l'inquiétude, c'est quelque part servir un autre maître. C'est avoir un cœur partagé. La deuxième chose que j'aimerais souligner ici concerne le verbe « s'inquiéter » que Jésus utilise quand même à 5 reprises dans notre passage pour donc interdire cette inquiétude à ses disciples. J'aimerais juste souligner que ce verbe, on le retrouve ailleurs, dans d'autres textes très connus, et on le retrouve par exemple dans ce passage bien connu, vous savez, Marthe et Marie, Marthe qui s'affaire, et puis Marie qui est au pied de Jésus, et Jésus qui lui dit dans Luc 10, verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes », c'est le même verbe, « et tu t'agites pour beaucoup de choses ». Et puis ce même verbe, on va encore le retrouver dans ce passage très connu de l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Clairement, la foi, la confiance en Dieu, la paix du cœur, la paix de Dieu et l'inquiétude ne font pas bon ménage. On peut même aller jusqu'à dire qu'elles ne sont pas vraiment compatibles. Et un des grands défis de la vie chrétienne est de ne pas céder à l'inquiétude pour demeurer dans la confiance. Un des grands défis de la vie chrétienne est de faire constamment, devant tous les sujets d'inquiétude qui se présentent à nous, de faire le choix de la confiance en Dieu, malgré tout, le choix de nous attendre à lui. Un des plus grands défis de la vie chrétienne est de mettre simplement en pratique cette parole à l'écran de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, dit-il. On peut noter, pour terminer sur ce verbe s'inquiéter, que ce sont les inquiétudes, les soucis de la vie qui font dans la parabole du semeur, souvenez-vous, que la semence qui tombe parmi les épines sera étouffée. Étouffée, dit Jésus dans son interprétation, par les soucis du monde et par la séduction des richesses. Oui, l'inquiétude est un véritable obstacle à la foi, à la confiance en Dieu, à la confiance que Jésus nous demande de mettre en lui. Un dernier point dans ces éléments à prendre en compte, et cette dernière, troisième et dernière remarque que je voudrais faire ici, c'est que Jésus prend en compte nos besoins. On pourrait peut-être penser que ce n'est pas le cas. Quand Jésus dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas qu'il ne comprend pas la vie, ce n'est pas qu'il est dans une bulle et il ne sait pas que nous sommes confrontés aux inquiétudes de la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une négation de la difficulté de nos vies. Ce n'est pas non plus une espèce de méthode couée pour amener ses disciples à se convaincre que tout va bien, alors qu'il y a plein de raisons de penser le contraire. En réalité, Jésus est tout à fait conscient des difficultés de la vie et des besoins de la vie de ses disciples. Il reconnaît d'ailleurs dans le texte les besoins du corps, le corps qu'il a lui-même créé. Il sait que nous avons besoin de nourriture et de vêtements. Et il souligne au verset 32 que notre Père Céleste sait tout cela aussi. Il sait que nous avons besoin de ces choses. Et puis souvenons-nous que Jésus est quand même celui qui nous a appris à prier pour demander notre pain quotidien. C'est bien qu'il prend en compte nos besoins et qu'il les connaît. Si Jésus prend en compte nos besoins, il prend aussi en compte notre fragilité, notre tendance naturelle à nous inquiéter. Et c'est donc pleinement en connaissance de cause qu'il invite ses disciples, qu'il nous invite, si nous sommes son disciple, à ne pas nous inquiéter et à lui faire confiance. Et puis j'aimerais surtout terminer en disant ici que si Jésus nous fait cette demande, c'est qu'il veut aussi nous donner la capacité d'y répondre, la capacité d'y obéir, d'y arriver. S'il nous demande de ne pas nous inquiéter, c'est qu'avec son aide, c'est possible d'y arriver. Je ne pense pas que Jésus demandera jamais quoi que ce soit à ses disciples qu'il leur soit impossible de faire. Nous passons au troisième et dernier point. Pourquoi le choix de l'inquiétude est-il mauvais ? On pourrait aussi poser la question un petit peu autrement. Pourquoi devrais-je faire le choix de ne pas m'inquiéter ? C'est donc notre troisième grand point. Et premièrement, nous l'avons déjà évoqué parce que résister à l'inquiétude, c'est être cohérent avec le choix que j'ai fait un jour de choisir Dieu pour maître, pour Seigneur. Et ce choix-là, il doit se traduire dans mon quotidien. Et il doit se traduire dans mon quotidien par le rejet de l'inquiétude et par le choix de la confiance en Dieu. Or, si Dieu est mon maître, mon Seigneur, et que je nourris néanmoins l'inquiétude dans ma vie, sans y résister, j'ai baissé les bras peut-être, sans y résister comme je pourrais peut-être le faire, même sans doute le faire, alors en réalité, je joue sur deux tableaux à la fois. Je suis comme assis entre deux chaises. Pour reprendre les paroles du verset 24, je suis en train de servir deux maîtres à la fois. Et ça, généralement, ça me fait plutôt tourner en rond et certainement pas avancer dans le bon sens. Si la confiance en Dieu doit caractériser le disciple de Jésus, l'inquiétude pour les choses de la vie, dit Jésus, caractérise les païens. Il parle des gens, des nations, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Dieu pour maître. Voilà ce qu'il faut entendre par là, pas forcément ceux qui se prosternent que devant les idoles, ce sont ceux qui n'ont pas fait le choix de choisir Dieu pour maître. Ce sont eux qui recherchent ces choses-là. Et l'inquiétude, dit Jésus, caractérise leur vie. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Il nous faut donc rechercher sans cesse à ce que notre comportement quotidien soit en cohérence avec notre statut d'enfant de Dieu, qui peut faire le choix de la confiance plutôt que celui de l'inquiétude. Parce que Dieu est mon maître, parce que Dieu est mon Père céleste. Jésus parle du Père céleste à deux reprises dans le passage. Ce Père céleste qui veille sur ses enfants. La deuxième raison du pourquoi le choix de l'inquiétude est mauvais et pourquoi est-ce que je devrais faire le choix de ne pas inquiéter, c'est deuxièmement parce que Jésus me le demande. Alors bien sûr, c'est lié à ce que je viens de dire. C'est lié à tout ce que je viens de dire. Mais c'est tellement important que ça mérite quand même qu'on s'attarde dessus un petit instant. Cette question de la non-inquiétude dans notre vie de disciple, elle existe et elle doit exister, pas parce qu'un jour, quelqu'un s'est levé en se disant « Tiens, ça serait quand même bien que la vie chrétienne, ça fonctionne comme ça. » C'est pas ça. C'est une perspective qui nous est donnée par Jésus. C'est une parole de Jésus. C'est même un ordre, un impératif, un commandement qu'il adresse à ses disciples et qu'il nous adresse si nous sommes son disciple. C'est donc une parole qui doit être prise, considérée avec sérieux et qui doit être obéie par le disciple aussi souvent que possible. Parce que telle est la volonté de Jésus pour ses enfants, pour ses disciples. Sérieux et obéissance, non pas parce que mon salut en dépend, Je ne vais pas perdre mon salut parce que je me suis inquiété. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. Mais parce que la qualité de notre marche avec le Seigneur en dépend. Ce qui dépend là du sujet de l'inquiétude, je le redis, ce n'est pas mon salut, mais c'est la qualité de ma relation à Dieu et de ma vie chrétienne. Parce que c'est au final pour notre bien que Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Ce n'est pas pour nous embêter. Ce qui est en jeu ici, c'est la paix de Dieu. Voilà de quoi on parle. C'est la paix du cœur, c'est la paix qui surpasse toute intelligence dont parle l'apôtre Paul aux Philippiens. Et cette paix, Dieu veut la donner à celles et ceux qui se confient en lui et qui font le choix de la confiance plutôt que celui de l'inquiétude. Faire le choix de la confiance, c'est au final une façon positive de dire ce que Jésus dit dans notre texte de manière négative. L'interdiction à l'inquiétude, c'est un appel à la confiance. C'est un appel à la confiance pleine et entière en Dieu, jour après jour, même quand je ne comprends pas, même quand je suis bousculé. Pourquoi le choix de l'inquiétude est-il mauvais? Pourquoi devrais-je faire le choix de ne pas m'inquiéter? Troisièmement, parce que Dieu prend soin de ses enfants. Parce que Dieu a promis de prendre soin de ses enfants. Et pour nous le faire comprendre, Jésus va utiliser dans le texte que nous avons lu le raisonnement a fortiori ou le raisonnement à plus forte raison. Et il va commencer en allant du plus grand vers le plus petit et puis ensuite en allant du plus petit vers le plus grand. Alors de quoi s'agit-il ? Commençons par du plus grand vers le plus petit tout d'abord. Jésus au verset 25, par une autre question, dit que la vie est plus grande, plus importante que le corps et que le vêtement. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Et la réponse qui est sous-entendue à cette question, c'est bien évidemment. La vie est plus grande, plus importante que le corps, que la nourriture et que le vêtement. Et donc, dans ce raisonnement a fortiori, si Dieu a donné la vie, si Dieu a créé le corps, il donnera aussi à plus forte raison, ce qui est nécessaire à la vie pour exister et ce qui est nécessaire au corps pour subsister. C'est un raisonnement a fortiori du plus grand vers le plus petit. S'il donne le plus, il donnera aussi le moins. À plus forte raison, il donnera aussi le moins. Et puis, Jésus raisonne aussi dans l'autre sens, dans l'autre texte. Il va du plus petit vers le plus grand. Et il le fait en donnant deux exemples, celui des oiseaux du ciel, au verset 26, et celui des lys des champs, au verset 28, qui ensuite passe à l'herbe des champs, au verset 30. Et dans les deux cas, dans ces deux exemples, Jésus dit que Dieu prend soin de ce qui est insignifiant comparé à la vie humaine. Il prend soin des oiseaux en les nourrissant et il prend soin des fleurs des champs en les habillant. Et Jésus de conclure pour les oiseaux du ciel par une question au verset 26, « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, beaucoup plus que les oiseaux ?» Et la réponse est à nouveau sous-entendue, « Oui, bien évidemment !» Les disciples valent beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Et donc, raisonnement a fortiori, si Dieu en prend soin, si Dieu prend soin de ce qui est moindre par rapport à la valeur de la vie humaine, ne prendra-t-il pas soin, à plus forte raison, de ses enfants? Et la réponse qui est encore une fois sous-entendue, c'est oui, bien évidemment. Il le fera. Et puis pour les lys des champs, l'herbe des champs, on peut noter que là, le raisonnement a fortiori, il est écrit en toutes lettres. Il est clairement énoncé par Jésus. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Oui, si Dieu habille l'herbe des champs qui pourtant demain sera jetée au feu, il pourvoira à bien plus forte raison pour le vêtement de ses enfants. Et donc, vous constatez que ici le raisonnement est parti du plus petit vers le plus grand. Si Dieu donne le moins, il donnera aussi le plus, parce que la valeur de la vie humaine est bien plus grande. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en faisant notre part, nous pouvons ne pas nous inquiéter. Nous pouvons cultiver la confiance en Dieu parce que Dieu s'est engagé à prendre soin de ses enfants. Ses soins pour les petites choses de sa création en témoignent. Il prendra aussi soin de nous qui avons tellement plus de valeur à ses yeux. Pourquoi le choix de l'inquiétude est-il mauvais? C'est l'avant-dernier point, on arrive au bout. Parce que l'inquiétude est totalement inutile. Eh oui, l'inquiétude est totalement inutile. On le sait tous au fond de nous-mêmes. Elle est totalement inutile pour tout ce que je viens de dire, parce que Dieu connaît nos besoins et qu'il s'est engagé à pourvoir à nos besoins. Ça devrait nous suffire. C'est clair dans beaucoup d'autres passages, et je pense par exemple à celui de 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin ou il prend soin de vous. » Dieu s'est engagé à cela, et ça rend l'inquiétude complètement inutile. Ce constat de Dieu qui s'engage à prendre soin de nous nous amène à dire que s'inquiéter, c'est finalement ne pas croire que Dieu va tenir parole. Il s'est engagé à prendre soin. Je continue sur le chemin de l'inquiétude. Je dis, par cette inquiétude, que je ne pense pas que Dieu est suffisamment grand ou qu'il a les moyens de tenir sa promesse. Et j'ouvre ici une petite parenthèse. Certains parfois vont s'appuyer sur le constat de la misère dans le monde, par exemple, pour dire qu'en effet, il y a des situations où Dieu ne tient pas parole, puisque certains de ses enfants connaissent la misère, connaissent la famine, connaissent le dénuement total ou presque. Alors c'est une vaste question, donc je suis forcément dans des choses très ramassées, mais deux remarques rapidement. Premièrement, la misère dont nous parlons, dans la très grande majorité des cas, elle est le fait de l'homme, pas de Dieu. Elle est le fait de l'égoïsme de l'homme. Elle est le fait de sa volonté à exploiter son prochain. Et j'en passe. Et on pourrait bien évidemment ajouter ici que nous vivons dans un monde déchu. Si des gens souffrent dans le monde de malnutrition, par exemple, ce n'est pas parce que Dieu, dans son ciel, a un jour décrété que des êtres humains allaient mourir de faim. Mais c'est parce que l'homme est égoïste, parce qu'il ne répartit pas de façon équitable les biens qui sont à disposition. Parce qu'en réalité, Dieu a tout donné en abondance. Mais les hommes accumulent, amassent, thésaurisent, gâchent et gaspillent toutes ces ressources sans toujours les partager. Deuxième remarque, il faut rappeler ici que ce n'est pas parce que je mets ma confiance en Dieu que toutes les difficultés de la vie vont m'être épargnées. Être libre de l'inquiétude, c'est de ça dont on parle vraiment. Être en paix dans mon cœur, être libre de l'inquiétude ne veut pas dire la disparition de tous les sujets d'inquiétude. Jésus nous ordonne de ne pas nous inquiéter, mais il ne nous promet pas l'immunité contre toutes les infortunes de la vie. Ce qu'il nous promet, c'est sa paix. Sa paix, parfois, malgré les infortunes de la vie. Je referme la parenthèse et désolé si vous êtes frustrés parce que j'en dis pas plus. L'inquiétude est donc inutile parce que Dieu a promis de prendre soin de ses enfants, mais aussi parce qu'elle ne change jamais rien dans le bon sens. Et c'est ici que l'on revient enfin à notre question initiale. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger sa vie, ne serait-ce que de quelques instants? Et la réponse à cette question, bien évidemment, c'est personne. L'inquiétude ne produira jamais le rallongement de la vie. Personne ne peut rallonger la durée de sa vie par ses efforts, par son inquiétude. Personne, tout simplement, parce que nos jours sont comptés, c'est ce que l'Écriture nous dit. Et puis parce que tout simplement, ce n'est pas notre prérogative. Et puis, notons que si l'inquiétude ne peut pas nous faire gagner des jours de vie, elle peut peut-être par contre nous en faire perdre par tous les maux et toutes les pathologies qu'elle peut engendrer dans une vie. Mais notons ici, pour finir, cette quatrième raison que la belle chose dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que si l'inquiétude est inutile et ne peut pas rallonger la vie, la confiance en Dieu, elle, la prolonge jusque dans l'éternité. La confiance en Dieu nous donne la vie éternelle. C'est formidable. Voilà, nous arrivons à la fin. Pourquoi le choix de l'inquiétude est-il mauvais? Pourquoi ne devrais-je pas faire le choix de... Pourquoi devrais-je faire le choix de ne pas m'inquiéter? Cinquièmement, parce que Dieu nous propose un autre programme. Lequel? C'est la fin de notre passage, le verset 33. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Après les formulations négatives du texte à ne pas s'inquiéter, nous avons là la seule formulation positive de notre texte, qui correspond à ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Et il attend de nous que nous nous engagions, à notre niveau chacun, mais que nous nous engagions à son service, que nous lui donnions la priorité de notre vie et que nous fassions du règne de Dieu et de sa justice une priorité de notre vie. Comme le dit une note de la Bible du Semeur, contrairement à la tendance humaine naturelle, la foi à laquelle Jésus appelle ses disciples ne cherche pas à obtenir de Dieu davantage de biens matériels, elle cherche son règne et sa volonté. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est bien évidemment la promesse qui accompagne cette demande du Seigneur. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Et toutes ces choses, elles viennent d'être mentionnées. C'est la recherche du manger, du boire, du vêtement. Et toutes ces choses, dit Jésus, vous seront données de surcroît, par-dessus, en abondance. Chers amis, je sais que cet appel à la confiance que Jésus nous adresse n'est pas toujours facile à vivre, n'est pas toujours facile à mettre en pratique. J'en suis pleinement conscient et je le vis comme vous. Mais c'est une des facettes importantes du combat de notre foi au quotidien. Celui de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Ça revient à cela. Celui de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et celui de lui donner la seule place qu'il mérite dans notre vie, c'est-à-dire la première. Le faire est peut-être difficile. Parfois, des fois, on y arrive quand même aussi. Mais c'est toujours le chemin de la paix. de la paix de Dieu dans le cœur. Une paix qui vaut toute notre attention, qui vaut tous nos efforts. Une paix que seul Dieu peut donner à celle ou celui qui se confie en lui. Et si parfois il nous arrive de nous inquiéter, ça nous arrive. Si parfois il nous arrive de nous inquiéter, ne laissons pas Satan nous accabler, parce que Dieu a pourvu un chemin de retour à la confiance. Ce chemin s'appelle simplement la repentance. Et ça vaut la peine, ne nous en privons jamais, parce que ce chemin-là, c'est le chemin de la paix de Dieu. C'est le chemin de notre bonheur avec Dieu ici-bas. Amen.